Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une communauté à laquelle on s'est parfois habitué, une communauté qui pourtant a contribué à transformer le regard de la société française sur les personnes handicapées, mais aussi le regard de nombre de chrétiens. Cette communauté, c'est l'Arche. Fondée par Jean Vanier, l'un des grands prophètes de notre temps, dans les années 60 en région parisienne, elle compte aujourd'hui plus de 5000 personnes de par le monde. Des communautés de vie entre personnes handicapées et autres à découvrir et à redécouvrir. Ce matin pour cette émission, l'Arche, une famille prophétique dans l'Église. Je reçois Éric Pillet, qui est directeur de l'Arche en Pays Toulousain. Bonjour.
Bonjour.
Le père Lisier de Bardis, qui est recteur du sanctuaire Saint-Jérôme à Toulouse et prêtre accompagnateur de l'Arche en Pays Toulousain. Bonjour.
Bonjour.
Et Yann Bardou, vous êtes volontaire à l'Arche en Pays Toulousain au foyer Maloya. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on le dit dès le début, on avait invité des personnes handicapées, mais voilà, leurs agendas, les circonstances ont fait qu'elles n'ont pas pu venir. Évidemment, elles étaient les bienvenues et nous ne les chassons pas du plateau de Radio Présence. Ça serait un comble compte tenu de ce qui va être dit dans cette émission. Avec vous, Éric Pillet, c'est vrai que l'Arche, je pense qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui connaissent bien, voire parfois très bien, mais on sait qu'on n'a pas que des auditeurs qui sont des catholiques pratiquants ou très investis dans la vie de l'Église, et donc ils ne connaissent pas forcément. Alors du coup, je vous propose qu'on recommence un peu à zéro. J'ai cité cette grande figure qui est Jean Vanier, qui maintenant commence à être un peu âgé, puisqu'il a presque
88 ans.
Voilà.
Il est né en 1928.
On dit qu'aujourd'hui, c'est un des grands prophètes des temps modernes. Est-ce qu'on peut parcourir sa vie rapidement? Alors, je vais vous introduire. Donc, Jean Vanier est né donc en 1928. Il est le fils du gouverneur général du Canada, donc c'est pas rien. Et c'est un garçon qui, très jeune, va décider de s'engager de manière assez radicale.
Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a très très jeune, et notamment du fait de son milieu familial, a été concerné, on va dire, par la foi et la découverte donc de Jésus-Christ, et qui très tôt s'est engagé à essayer de vivre selon l'Évangile, mais avec un parcours qui l'a amené à d'abord être officier de marine. Et il parle d'un moment fondateur, je le cite parce que c'est très important, il le dit souvent, mais à 13 ans, son père, il a voulu s'engager dans la marine pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc ça voulait dire rejoindre l'Angleterre à partir du Canada, dans un océan atlantique dangereux du fait des sous-marins allemands, etc. Et son père lui a dit « Vas-y, je te fais confiance ». Et il a dit que ce mot de « mon père qui me fait confiance » a vraiment été très fondateur dans ma vie. Donc il s'est engagé dans la marine.
Ce qui n'était pas rien à 13 ans, surtout dans le contexte.
Absolument, absolument. Puis avec les risques qu'il y avait, bien sûr, d'un pays en guerre. Il a donc servi la marine anglaise jusque dans les années, jusqu'à ce qu'il ait 21-22 ans.
Vous voulez dire qu'il y est allé, justement,
ou... Il y est allé, bien sûr, oui, il est allé, il s'est engagé comme cadet, et puis ensuite il a grimpé un certain nombre d'échelons jusqu'à devenir donc officier de marine, officier sur le pont de navires de la marine anglaise et puis canadienne. Et puis ensuite il a eu un parcours qui l'a amené à faire des études de philosophie. C'est devenu un spécialiste d'Aristote. Il est docteur en philosophie. Il a aussi bien sûr étudié la théologie, et il a eu une volonté de, à un moment donné, de s'engager dans la prêtrise. Ça faisait partie de ses désirs. Il s'est pour cela rapproché, donc après avoir été professeur de philosophie, il s'est rapproché d'un prêtre qui a compté pour lui, qui est le père Thomas Philippe.
Alors juste avant qu'on parle du père Thomas Philippe, donc oui. Il est engagé donc dans la marine anglaise pendant quelques années, et puis après, comment il passe de la marine anglaise à s'installer en région parisienne avec des personnes handicapées? Il y a une période en fait de flottement, d'interrogation, de recherche personnelle.
C'est-à-dire que non. l'engagement, l'Arche est né en 1964, il avait 36 ans, donc entre, il quitte la marine, alors je crois de mémoire vers 23-24 ans, et entre 23-24 ans et 36 ans, il est professeur de philosophie au Canada et en France, et décide de venir un moment en France pour s'engager dans une communauté chrétienne de vie où il pouvait donc approfondir sa foi en Christ, et c'est là qu'il a rencontré effectivement le père Thomas Philippe, qui a été un homme important pour lui, et c'est en fait après, pour faire vite, parce que sinon on va pas avoir le temps, mais pour faire vite, il rejoint le père Thomas, qui était aumônier d'une structure pour personnes handicapées dans l'Oise. Et c'est ce contact avec les personnes avec un handicap suite à une visite qu'il fait d'un hôpital, d'un asile en fait. À l'époque, c'était un asile où, donc dans ces années 60, nous n'avions pas toutes les structures qui existent aujourd'hui. Et il y avait plusieurs milliers de personnes de tout type, malades psychiques, handicapés mentaux, ce qu'on appelait à l'époque les fous, hein, qui étaient tous dans des conditions qui n'étaient pas très reluisantes. Il n'y avait pas les structures éducatives existantes. Et il a été très touché par la misère et la détresse.
Plus que touché, il était, quand il le raconte, il était vraiment bouleversé.
Oui, tout à fait, bouleversé par la détresse de ces hommes, puisque c'était une institution d'hommes. Et il a décidé d'engager sa vie, une vie toute simple, auprès de, donc, avec deux hommes qu'il a retirés, avec les autorisations nécessaires, de cette institution, Raphaël et Philippe. Et il a acheté une petite maison dans le village de Trolibreuil, dans l'Oise, et c'est comme ça que l'Arche a démarré.
Il a commencé à vivre avec eux donc en 1964.
1964, août 1964, et c'est comme ça que l'Arche est née, non pas avec l'idée pour Jean Vanier de créer ce que l'Arche est devenue, mais vraiment au contraire de s'engager au nom de l'Évangile, auprès de personnes, et vivre une vie simple, partant quand même de l'intuition que ce dont avaient besoin ces hommes, et on pourrait élargir, ce dont ont besoin toutes les personnes fragiles, et je pourrais dire sûrement non fragiles aussi, c'est d'abord d'être en relation d'amitié et d'être vus comme des personnes dignes de valeur.
Alors, on y reviendra. Est-ce que vous pouvez contextualiser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes handicapées, ça va mieux pour elles. Bon, c'est probablement pas toujours le cas, mais en tout cas, dans les années 60, la société française était très loin de la manière, peut-être, ou du regard qu'elle commence à porter sur les personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, pour ce que vous en savez?
Alors, en lien avec les personnes handicapées à cette époque, mais oui, je crois que Jean Vanier parle beaucoup d'humiliation et d'exclusion, et les personnes avec un handicap mental à l'époque faisaient sûrement partie des personnes les plus exclues de la société, générant de la gêne, de la peur. Elles étaient ghettoisées dans des institutions qui n'avaient pas beaucoup de visées éducatives et de développement, voire d'espérance, sur l'avenir de ces personnes. Donc on les occupait, on les gardait. Il y avait bien entendu des gens admirables qui étaient aux côtés d'eux, il n'y avait pas de projet d'intégration. On ne parlait pas d'inclusion, de développement, d'employabilité. Enfin voilà, c'était quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour de la société française comme des autres sociétés. Et donc c'est dans ce contexte que effectivement Jean Vanier s'est engagé auprès de personnes dont il estimait qu'elles étaient les plus exclues. Et cette rencontre, peut-être aurait-il pu faire d'autres rencontres avec d'autres types de détresse, mais c'est de celles-là et de gens qui ne sont pas reconnus. Et on pourrait dire aujourd'hui encore, il y a encore du chemin à faire pour que notre regard, le regard de notre société, évolue. Et ça fait vraiment partie des missions de l'Arche qu'effectivement d'essayer de promouvoir la richesse de ces personnes.
Alors, sur les débuts à Trolibreuil, quand j'ai ouï dire que quand Jean Vanier s'est installé à Trolibreuil, c'est pareil, Trolibreuil, ça s'est pas fait sans difficulté, et que les gens dans le village se disaient, c'est quoi cette hurluberlu qui débarque avec deux personnes handicapées?
Oui, surtout que assez vite, le petit noyau qu'il a créé s'est développé. Et finalement, assez rapidement, d'abord, il a repris la direction d'un établissement qui existait déjà, le Val Fleury, qui existait, et on lui a demandé d'en être directeur. C'était un lieu qui accueillait peut-être une trentaine d'hommes. Donc assez vite, l'année d'après, l'Arche a grossi assez fortement. Et puis Jean Vanier étant quelqu'un qui, on va dire, oui, a un certain charisme, il a attiré d'autres personnes qui ont voulu vivre cette vie communautaire. Je pense que fin des années 60, on n'est pas loin de 68, la dimension communautaire d'une vie ensemble, d'une vie partagée, simple, proche, on va dire, de la terre d'une certaine manière et autres, était quelque chose qui mobilisait beaucoup de jeunes. Et donc beaucoup de gens sont venus rejoindre Jean Vanier, à la fois pour vivre leur foi, mais aussi pour faire cet engagement un peu radical auprès de personnes pauvres.
Alors avant qu'on avance, Johan Bardou, j'avais une question. Vous avez 22 ans, vous êtes volontaire donc, pour la deuxième année donc, à l'Arche en Pays Toulousain. Avant de débarquer à l'Arche, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Jean Vanier ou pas du tout ?
Nullement. Il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, j'avais jamais entendu parler. Il a suffi du hasard, je sais pas comment on peut l'appeler, mais d'un petit loupage de covoiturage pour me retrouver chez ma grand-mère en train de lire Le Pèlerin. Et dedans, il y avait un article de Stéphane Posner, directeur de l'Arche en France, où notamment il parlait beaucoup de sa première année de volontariat à l'Arche à Paris. Et ça m'a parlé, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, c'est 2-3 jours de réflexion et ensuite...
Alors ça, vous nous raconterez après, mais en tout cas, Jean Vanier, vous aviez jamais entendu ce mot. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus familier et quand vous entendez cette histoire que raconte Éric Pilet, même si je crois vous n'êtes pas spécialement chrétien, enfin bon, peu importe, ouais. C'est pas forcément le sujet, vous reconnaissez dans cet homme une figure, enfin dire, je sais pas, prophétique, ou est-ce que pour vous, c'est un mot un peu exagéré?
Ouais. Au début, Jean Vanier, ma première année, je l'ai pas beaucoup aimé, parce que tout le monde en parle en l'idolâtrant, quelque peu, et ça me plaît pas beaucoup. Mais il a suffi que je le rencontre lors d'une formation et de pouvoir un peu échanger avec lui. Et on se rend compte que finalement, c'est un homme très très simple qui, par sa simplicité, a généré beaucoup de belles choses. Et donc, je reconnais par là un exemple.
Alors, si on continue, je vous oublie pas, Père Lisier de Barnis, et puis si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas, vous nous faites signe. Mais on continue cette magnifique aventure de l'Arche en décrivant. Donc ça, vous nous avez parlé des tout débuts, Éric Pilet. Aujourd'hui, donc, la communauté est présente dans 35 pays, c'est ça, hein. Il y a à peu près 150 communautés, 5000 membres. Vous pouvez nous dire quelque chose de cette croissance entre ces débuts et Troïs? Et c'est toujours fait, on va dire, de manière continue et tranquille?
Alors, ça s'est fait de façon régulière, avec des périodes de plus grande croissance que d'autres. Par exemple, dans les premières années, l'Arche s'est beaucoup développée. Et c'est intéressant de noter que si la deuxième communauté qui est née après Trolley était en France, à La Merci, près de Cognac, la troisième a été au Canada, près de Toronto, et la quatrième en Inde. Hein, donc avant la fin des années 70, l'Arche avait déjà un développement international assez prononcé, et très vite aussi en Afrique de l'Ouest. Donc, et dans une dimension donc à la fois internationale, pays riches, pays pauvres, et avec des cultures et des pays à cultures très différentes et des religions très différentes. Donc l'Arche, la dimension interreligieuse ou interconfessionnelle de l'Arche a été présente dès le départ.
Alors, on y reviendra après une première pause musicale. Avant de faire cette pause, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'Arche en Pays Toulousain? Donc, au milieu de cette grande communauté, il y a donc l'Arche en Pays Toulousain.
Ah oui, c'est ça. Dans la quarantaine de pays dans lesquels l'Arche est présente, elle est particulièrement présente en France, au Canada, on a aussi, ensuite les États-Unis et l'Angleterre. En France, il y a 32 communautés et l'Arche en Pays Toulousain est une toute récente, puisque nous allons fêter nos 5 ans l'année prochaine et nous étions la 31e, née donc en mars 2012.
Alors
nous accueillons 50 personnes avec un handicap dans des activités de travail et d'hébergement. Donc nous partageons notre vie de vie de foyer et de travail avec les personnes avec un handicap. Nous sommes dans une communauté très ouverte sur l'extérieur, en plein centre de Blagnac. Je crois qu'on commence à être vraiment bien repéré à travers nos activités, mais aussi à travers tous les liens que nous avons avec nos amis, nos adhérents, nos voisins. Et ça fait partie des grandes joies que l'on a de cette ouverture, de cette respiration, et surtout de cette capacité que les personnes avec handicap ont de créer justement des liens et d'appeler à la rencontre.
Est-ce qu'il y a d'autres arches en Occitanie ? Ou est-ce que c'est là,
il n'y a
c'est...
pas d'autre arche. Alors, l'Occitanie, les deux régions, oui, la plus proche, c'est Agen, mais c'est en Aquitaine, c'est à Astafort. Et la seconde plus proche, c'est Montpellier.
Nous sommes deux, nous sommes un. Nos pas s'embrouillent sur le chemin. Nous étions heureux et puis plus rien. Dans la déroute, Dieu nous rejoint. Dieu n'est jamais loin de ceux qui doutent. Nous étions proches, nous sommes loin. Cœur ne sait plus ce qu'il contient. Un lien se casse, un autre tient. C'est celui de l'amour. D'où est-ce qu'il vient? Nous sommes deux, nous sommes un. Quel mystère! Mais notre Dieu n'est jamais loin. Près du Père, tout est clair. Nous étions proches, nous sommes loin. Quand la nuit tombe, tu retires ta main. Déjà mon regard ne t'évoque plus rien. Dans la déroute, Dieu nous rejoint. Nous sommes deux, nous sommes un. Quel mystère! Mais notre Dieu n'est jamais loin. Près du Père, nous sommes un.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission sur l'Arche, une famille prophétique dans l'Église. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que nous sommes avec Éric Pilet, qui est directeur de l'Arche en Pays Toulousain, le père Lizier de Bardis, qui est recteur du sanctuaire Saint-Jérôme et prêtre à Toulouse et prêtre accompagnateur de l'Arche en Pays Toulousain, et puis Yann Bardou, qui est volontaire pour sa deuxième année à l'Arche en Pays Toulousain, et qui est au foyer de Maloya. On fait un petit coucou au foyer, si par hasard il y a des personnes handicapées qui écoutent, et des membres du foyer qui écoute cette émission. J'ai oublié de le dire au début de l'émission, donc je le dis maintenant. Cette émission, entre autres, a été motivée donc par la tenue prochaine d'un colloque. J'en reparlerai à la fin de cette émission, la 4e édition du colloque Fragilité interdite. Alors là, ça s'adresse à tout le monde, évidemment, tout le monde est le bienvenu. Grand colloque qui a lieu les 26 et 27 novembre prochains à Paris. Et je donnerai à la fin de cette émission on en parlera un peu plus avec Éric Pilet, on donnera l'adresse du site internet. Dans cette deuxième partie, je voulais avec vous, on s'est dit ensemble, parler du signe qu'est l'Arche pour l'Église et pour la société française. cette introduction faite. Perlizier de Bardis, vous qui êtes l'ancien de ce plateau, qu'est-ce que vous diriez, c'est peut-être vous qui avez le plus de mémoire ecclésiale, je sais pas quelle est la nouveauté que ça a représenté dans l'église, l'arche, ou parfois c'est considéré un peu comme un ovni, enfin pas, c'est un petit peu à part. Est-ce que vous avez souvenir des premières fois où vous avez entendu parler de l'arche?
Je ne sais pas si je suis le mieux qualifié pour donner cette leçon d'histoire, mais c'est vrai, il y a 5 ans, donc Monseigneur Le Gall m'a nommé, m'a envoyé à l'Arche. C'était à la demande de l'association qui mettait en place l'Arche en Pays Toulousain, qui avait suggéré mon nom à l'archevêque. Je dirais que rien ne me prédestiné particulièrement, mais enfin j'ai été heureux de cette nomination. Il se trouve quand même que j'avais lu la communauté du pardon et de la fête dès sa parution. J'avais eu l'occasion de le lire et j'avais été assez marqué par cet ouvrage. Et puis, on parlait de Jean Vanier tout à l'heure. Je voudrais rappeler une phrase qu'il a dite, je l'avais écoutée un vendredi saint. Il était invité de Bernard Pivot à l'émission bien connue de l'époque, Apostrophe, il y a quelques dizaines d'années maintenant. Et à la fin de l'émission, Bernard Pivot, assez touché par le témoignage de Jean Vanier, lui dit « Mais en fait, comment est-ce qu'on choisit comme ça de se consacrer aux personnes handicapées ?» Et Jean Vanier avait répondu avec son sourire « Vous savez, je ne sais pas si on choisit, on est choisi. » avait-il répondu. J'avais été aussi touché par cette parole. Alors, pour répondre à votre question, oui.
Qu'est-ce que ça représentait comme nouveauté dans l'Église? Je le disais en introduction, c'est vrai que voilà, le regard de la société française petit à petit évolue, mais enfin, dans les années 60, c'était dans l'Église probablement...
L'Église, bon, elle a un rôle prophétique, c'est certain, mais bon, elle est comme la société dans laquelle elle est immergée. Les membres de l'Église font partie de la société. Et il y avait, je dirais, le même déficit d'accueil, de clairvoyance, quelquefois de bienveillance envers les personnes handicapées. Voilà, parce qu'on n'avait pas le même sens aujourd'hui de la possibilité d'éducation, d'évolution, d'espérance, comme disait Eric tout à l'heure. Et puis, que ces personnes, malgré leur handicap, gardent non seulement toute leur dignité humaine, bien sûr, mais toute leur capacité de relation, d'insertion dans la communauté humaine, dans la fraternité, dans la solidarité humaine, et peuvent, malgré leur handicap, et quelquefois au-delà de leur handicap, tenir pleinement leur place dans l'Église. L'Arche a, je pense, contribué largement à ce que les personnes handicapées soient accueillies comme des membres à part entière de l'Église. Et... Bon, je donnerai un témoignage. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de donner la première communion à une personne, un garçon d'une vingtaine d'années qui était extrêmement handicapé. Hein. Et là, sa maman, qui fréquentait l'église et une communauté religieuse, m'avait dit, elle était venue me trouver parce que elle avait été surprise que le religieux auquel elle s'était adressée lui avait dit non, ça ce n'est pas du tout question de donner l'Eucharistie à un enfant comme le vôtre, il ne peut pas du tout comprendre, enfin bon. Et là je pense que nous avons beaucoup évolué.
Voilà, on l'espère en tout cas. Vous avez commencé à esquisser, peut-être, enfin, dire la nouveauté de l'Arche ou son importance dans l'Église. Il y a un livre que m'a conseillé Éric Pilet pour préparer cette émission. Alors, bon élève, je l'ai parcouru, à défaut de le lire de A à Z, en bon journaliste. Ce livre s'appelle « Bouleversante fragilité » paru aux éditions Nouvelle Cité. « L'Arche à l'épreuve du handicap » par un certain Christian Salanzon. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être juste un mot de Christian Salanzon très rapidement?
Oui, tout à fait. Christian Salanzon est quelqu'un de très remarquable. C'est un théologien du diocèse de Nîmes, je crois, et c'est un spécialiste de Christian de Chergé. Et qui a travaillé beaucoup dans le, sur le dialogue islamo-chrétien. Et c'est quelqu'un que nous avons approché à l'Arche il y a quelques années pour nous aider à justement arriver à mettre des mots sur notre spiritualité. Et donc Christian Salençon a fait des, donc a animé, d'abord a réfléchi. Il n'est jamais allé dans une communauté de l'Arche. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un regard extérieur d'un homme de Dieu qui essaie de mettre des mots à travers des rencontres qu'il a faites avec un certain d'entre nous, de, et puis il est allé à la rencontre des assistants où il a donc fait des animé des sessions, et donc c'est ce livre est le fruit de cette rencontre avec l'Arche, et nous en sommes très heureux parce que vraiment on se retrouve complètement dans ce qu'il dit.
Alors évidemment le livre est important. En tout cas il y a un chapitre qui s'appelle l'expérience de la rencontre, semble-t-il, enfin à l'Arche vous parlez même de spiritualité de la rencontre, et il a cette phrase: mettre au centre la rencontre et à travers elle la vie commune, voilà proprement à proprement parler le génie de l'Arche. Alors est-ce que vous pouvez expliquer ou mettre en perspective ce propos? Donc il y aurait un génie propre à l'Arche, et ça serait celui de l'art de la rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors oui, on va parler de relation. La relation mutuelle, on va aussi parler de relation réciproque, est vraiment au cœur de l'expérience de l'Arche et de l'expérience que font beaucoup de personnes, qu'elles soient engagées comme assistants comme nous ou qui viennent comme bénévoles ou comme amis. C'est cette rencontre avec la personne avec un handicap mental qui, de par sa capacité relationnelle d'une part, mais aussi son absence souvent de défense. On pourrait parler peu de presque de nudité dans sa fragilité, appelle à nous-mêmes peut-être regarder nos propres fragilités, et c'est de cette rencontre qui finalement, qui au départ peut être une rencontre où je viens par... pour aider, hein, pour soutenir par générosité, va me bouleverser. On va parler de transformation, et c'est cette expérience qui est éminemment spirituelle que nous essayons de développer, que beaucoup de gens vivent, qui est que finalement la personne que je viens aider, en fait, c'est elle qui va m'aider. Je crois que c'est une expérience que beaucoup de gens font, pas simplement avec des personnes avec un handicap mental, mais le talent ou la c'est pas du talent, c'est la réalité de beaucoup de personnes avec un handicap, c'est justement d'aller nous chercher là où peut-être nous ne voulons pas toujours être cherchés, et de nous révéler nos fragilités et de nous aider du coup à les accepter. Je crois que cette transformation, elle est dans cette acceptation de nos propres fragilités.
Alors, je donnerai un témoignage personnel, une fois n'est pas coutume à ce sujet, c'est que pour préparer cette émission, je suis allé voir Eric Pilet à l'Arche en Pays Toulousain, et d'un coup, à la fin du repas, il y a une personne handicapée qui est venue et qui m'a fait un gros baiser sur la tête. Et c'est vrai que tout d'un coup, c'était une espèce de vent frais après une discussion bien sérieuse. Perlisier de Bardis, vous vouliez réagir à cette histoire, ce génie propre de l'Arche que serait celui de l'art de la rencontre?
Oui, nous citions tout à l'heure le livre... sûrement un des livres les plus importants de Jean Vanier, La communauté du pardon et de la fête.
Le lieu du pardon et de la fête.
Le lieu du pardon et de la fête, donc il parle de l'Arche. Il insiste sur ce qu'il appelle la relation d'alliance. L'inorelation, bien souvent, c'est soit de consommation, l'autre je peux prendre du plaisir chez l'autre, il a de la richesse que je peux prendre chez lui, je le consomme, mais voilà, quand j'ai consommé tout ce que je pouvais en prendre, tout ce que je pouvais en recevoir, eh bien je n'ai plus qu'à le rejeter comme un citron que j'ai pressé. Et à l'inverse, il y a la relation d'exclusion. Alors ce soit la séduction, soit l'exclusion. Et on comprend bien ce que ça veut dire. Il dit non, nous avons une relation d'alliance, c'est-à-dire d'échange, de don, de réception. Tu me donnes, je te donne, je reçois, tu reçois, et nous naissons ainsi l'un par l'autre. Et je crois que cette égalité dans la relation, cette relation d'alliance... est au cœur de la vie de la communauté de l'Arche. Et ça, moi, je le perçois bien, parce que les personnes handicapées, on n'est pas là pour elles ne sont pas l'objet de tous nos soins ou tout ce que vous voulez. elles font partie de la vie, de la communauté, et nous avons une vie commune, et absolument dans tous les lieux, dans toutes les instances, elles sont toujours présentes. Pour ça qu'il est un peu dommage que la personne prévue n'ait pas pu venir aujourd'hui, parce que rien ne se fait sans leur présence. Et...
Alors, peut-être que l'un de nous les représente sans le savoir. Hein. C'est Yann Bardou, voilà, c'est une blague, il n'y a que moi qui ai compris, mais c'est pas grave, pardon. Yann Bardou, est-ce que ça vous parle, cette manière de théoriser un peu probablement l'expérience qui est la vôtre? Qu'est-ce que vous diriez?
Ça me parle vraiment, oui. Et moi, je dirais, j'avais l'impression que votre interrogation était sur le génie. Dans la phrase, et le génie, je trouve, c'est que quand on est en relation avec les personnages, je pense à Myriam par exemple, Myriam qui aurait sûrement été ravie de venir témoigner avec nous, et ben Myriam, elle va nous appeler à donner le meilleur de nous-mêmes lorsqu'on est en relation avec elle, parce que elle est brute de décoffrage, et lorsque ça va pas vous plaire, elle va vous le dire, et au contraire, lorsque elle va adorer la manière dont vous êtes avec elle, elle va vous embrasser, elle va vous faire un gros câlin. Elle est brute, et avec elle on ment pas, on ne triche pas. Et le génie de cette relation, c'est que la relation avec Myriam m'apprend à devenir un peu plus vrai dans mes relations à l'extérieur de l'Arche, à l'extérieur de la communauté. Et moi, je trouve que le génie repose là-dessus, c'est que on vit en communauté, mais ça nous apprend réellement beaucoup sur la vie à l'extérieur et sur notre société actuelle et sur ce qu'on a envie d'y donner.
Alors, Éric Pillet, quelle est la place de la spiritualité dans l'Arche? C'est-à-dire que l'Arche, c'est pas des communautés catholiques fondées aux quatre coins de la planète où tout le monde doit aller à la messe et...
Non, nous parlons de communauté de foi. Alors peut-être avant de parler de communauté de foi, ce que l'on essaie de vivre, c'est de vivre trois dimensions. C'est la dimension professionnelle, d'être des bons professionnels de l'accompagnement, mais aussi des bons professionnels dans le maraîchage, puisqu'on fait du maraîchage, enfin voilà, d'être sérieux dans ce que l'on fait, d'être compétent. C'est la dimension communautaire, qui justement met la relation au centre et où on fait famille, hein, on fait communauté, et avec une qualité de relation que l'on essaye évidemment de cultiver. Et puis, la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, les deux, enfin, une communauté de l'Arche sans cette dimension spirituelle ne serait pas une communauté de l'Arche. D'une part parce que effectivement, comme on l'a dit, l'Arche est née avec cette expérience évangélique, hein, et de racines chrétiennes, s'est développée dans différents pays et différentes religions, mais accueille aussi beaucoup de non-croyants. Hein, voire même de personnes athées.
Et, puisque donc, il faut le dire, en fait, les personnes qui viennent, qui donnent un an ou deux, ou peut-être parfois plus, en fait, c'est souvent des volontaires civiques, c'est ça?
Enfin, oui, c'est ça. Alors, par exemple, à l'Arche en Pays Toulousain, nous accueillons 50 personnes, nous avons une trentaine de salariés, hein, de professionnels, et puis une dizaine de jeunes volontaires du service civique.
Voilà, qui viennent parfois du monde entier et qui ne sont pas du tout forcément chrétiens.
Et que ce soit des salariés ou des volontaires du service civique, bien entendu, le critère, enfin, il n'y a pas... Et donc, on est à l'image de la société. Nous avons beaucoup de gens qui sont agnostiques, aux marges de l'Église, qui ont pu avoir des expériences douloureuses ou qui sont totalement déchristianisés. Hein,
et donc,
non-christianisés.
Quand vous dites qu'il y a une importance de la dimension spirituelle, c'est-à-dire, en fait, le but, c'est quoi,
C'est-à-dire que... communauté de foi, c'est de dire que la dimension spirituelle et religieuse n'est pas ramenée à la sphère privée et qu'elle a droit de cité dans le corps collectif qu'est la communauté. Et qu'il n'y a pas de dimension si on essaie de prendre l'ensemble des dimensions humaines, on ne peut pas passer... à côté d'un élément essentiel de ce qui constitue une personne humaine, qui est sa dimension spirituelle, la dimension de transcendance, la dimension du sens de la vie, du sens que je donne aux choses, etc., de celle du don, du pardon, enfin voilà, de toute la dimension, et qui, pris largement comme ça, même si, encore une fois, pour beaucoup, elle est ancrée dans une religion explicite, parle à l'ensemble. Il y a une recherche spirituelle chez les jeunes aujourd'hui, y compris non christianisés. Et je crois que c'est un des privilèges que nous avons, mais aussi une des spécificités que nous avons dans le milieu, on va dire, médico-social, que d'être explicitement ouvert à cette dimension spirituelle et d'essayer de la nourrir.
Et il y a une recherche spirituelle chez toutes ces personnes handicapées ou...
Alors, oui et non. Je pense que la dimension spirituelle renvoie aussi à la dimension d'un certain mystère. Hein, il est difficile de savoir ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos âmes, mais ce qui est sûr, c'est que on voit bien à travers des personnes avec un handicap, prenons Myriam que, par exemple, mais on pourrait en citer d'autres, François, Laure, Madeleine, enfin, il y a un mystère de la relation à Jésus, pour ceux qui sont chrétiens, qui, où on voit bien que la foi n'est pas d'abord une question d'intelligence. Hein, mais une question de relation avec une personne vivante, que nous croyons, nous chrétiens, vivante, et où certains sont peut-être plus maîtres dans la foi que nous-mêmes. Donc on fait cette expérience. À côté de ça, je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes handicapées, de personnes handicapées, qui effectivement sont intéressées et vont profiter d'une certaine manière, à leur mesure, des événements que nous organisons, des mots que nous mettons aussi à travers des événements. Lorsqu'on célèbre un anniversaire, je crois que un anniversaire, et peut-être Lisier, tu pourrais en parler, mais il y a une dimension, il y a une manière de célébrer un anniversaire qui peut être éminemment spirituelle.
Allez-y, Père Lisier de Bardis, et puis on va faire une deuxième pause. Sur cet anniversaire.
Oui, qu'est-ce que c'est que la dimension spirituelle, hein, c'est ce qui échappe au registre de l'utile, du nécessaire, de l'efficace, qui se situe plutôt au niveau du symbolique, de ce qui donne du sens, de ce qui donne du plaisir. Et j'étais frappé l'autre jour, vous voyez, il y a pas 8 jours, c'était l'anniversaire d'une personne handicapée qui s'appelle Mathieu et qui est une personne qui est vraiment en difficulté et en souffrance. C'est un beau garçon au regard clair. Il vit dans notre monde, mais il y a un autre monde dans sa tête et dans les interstices. Il se perd, il a des difficultés de relations. Eh bien, dans son foyer, c'était son anniversaire, et puis pas n'importe quel anniversaire, puisqu'il avait 30 ans. Alors, comme toujours, on lui a demandé ce qu'il souhaitait. Et comme il a eu l'occasion d'aller en Grande-Bretagne avec sa famille, il a dit, moi je voudrais le thème de mon anniversaire, ce soit Londres. Alors le foyer a dit très bien, Britannique, Londres, alors on va commencer par fish and chips. Alors ils ont préparé un repas de poisson pané, les chips en anglais ce sont les pommes de terre frites. Hein. Et puis on a décoré le foyer avec des images qui rappelaient Londres. Et même la reine Elisabeth s'est invitée avec un bibi absolument inimitable, son sac à la main assorti et son tailleur, c'était magnifique. Et alors, à ce repas qui était très très joyeux, à la fin, chacun était invité à prendre la parole et à dire ce qu'il voulait. Alors c'est là que j'étais vraiment très ému. Bon, moi, on lui avait demandé qui voulait inviter, donc il m'avait nommé, donc j'étais là. Et moi, j'ai dit comme bon anniversaire, je suis heureux d'être là, merci de m'avoir invité, on te souhaite beaucoup de bonheur, enfin, des banalités codées, je dirais. Alors que les personnes accueillies, justement, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles disaient, ah Mathieu, moi, ce que j'aime chez toi, c'est ton courage. Et puis, merci d'être là, Mathieu, parce que sans toi, le foyer ne serait pas ce qu'il est. Et puis, chacun exprimait, moi j'étais très, très ému, vraiment ce qu'il recevait de la présence de Mathieu. Et il disait merci à Mathieu d'être là, merci d'exister, merci d'être comme il était. Et ce garçon qui est vraiment en souffrance, en angoisse, en difficulté, qui a souvent du mal à être dans un groupe, eh bien, il est resté jusqu'au bout, même s'il se troublait par certains moments. Et voilà. Et là, j'ai senti que on vivait vraiment le sens profond de la vie commune où chacun reçoit, chacun donne.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission sur l'Arche avec ce titre « Une famille prophétique dans l'Église ». Et si vous prenez par hasard cette émission en cette fin d'émission, je vous rappelle que nous sommes avec Éric Pillet, qui est directeur de l'Arche en Pays Toulousain, le père Lisier de Bardis, qui est prêtre accompagnateur de cette communauté, on dit communauté, hein, c'est ça, et Johan Bardou, qui est volontaire dans cette même communauté. Alors Johan, vous nous avez dit brièvement comment vous étiez arrivé à l'Arche, donc par un concours de circonstances. Qu'est-ce que... Alors c'est probablement très difficile de résumer comme ça, hein, mais déjà, je sais pas, est-ce que vous voulez réagir à l'une ou l'autre chose qui ont été dites et qui, pour vous, résonnent de manière particulière?
Ce qui résonne de manière particulière pour moi, c'est la soirée d'anniversaire que décrit Père Lisier, parce que on pourrait se dire, ah, c'est quelque chose, c'est 30 ans, c'est quelque chose de rare, et en fait, ces moments-là, on les vit à chaque anniversaire, et on les vit aussi chaque mercredi soir, où c'est la réunion de foyer, on se retrouve tous ensemble autour du salon, et c'est vraiment un temps où oui est dit à un autre père, mais chacun est libre de le partager ou non, mais ensuite chacun prend la bougie, et c'est un temps où chacun peut s'exprimer et confie ce dont il a envie, ou remercie un tel pour l'avoir aidé dans la journée, remercie simplement pour la semaine, rend grâce, quelque chose que j'ai découvert ici à l'Arche, rendre grâce. Et c'est un temps qui... C'est une vraie pause dans la semaine. Ça fait réellement du bien. Mais juste pour revenir sur la spiritualité, du coup, à l'Arche, moi, je suis arrivé à l'Arche, j'allais dire, fâché avec les catholiques, fâché avec l'image des catholiques que j'avais en tête. Et la première image que j'ai eue en arrivant, c'est un assistant, Jean-Baptiste, il m'en voudra pas si je lui dis, mais qui avait typiquement le look du catho que j'avais en tête et qui me faisait très rire, et je me suis dit, oh mince, mais où j'arrive? Et finalement, eh ben, au bout d'une semaine, j'étais pardonné j'étais en paix avec les catholiques et l'image dont j'en avais, parce que j'ai découvert une foi active, une foi qui n'était pas simplement celle d'aller à la messe et qui par la suite n'était pas du tout en rapport avec ce qui était dit. J'ai découvert une vraie foi réelle et qui fait du bien, et qui du coup m'a pardonné à ça. Et ça, c'est les personnes qui me l'ont appris. Une personne comme Géraldine qui ne parle pas.
Quand vous dites les personnes, c'est des
personnes accueillies. Oui. Une personne comme Géraldine qui ne parle pas, ou du moins pas comme nous, nécessite forcément du coup de se poser et de s'intérioriser un peu plus pour essayer d'aller avec elle. Et ma spiritualité, je la vis par elle. Parce que la spiritualité, avant tout, c'est quelque chose d'intérieur. Et Géraldine appelle à ça. Géraldine appelle à se poser, à pas se préoccuper de tout ce qu'on a en tête. Simplement être présent, là, s'écouter, poser sa respiration. Et c'est formidable lorsque tout d'un coup, on a Géraldine qui, on a l'impression, elle se fout royale de nous et s'approche et nous passe le bras autour de nous. Ben, voilà, c'est quelque chose. La spiritualité, pour moi, est vraiment là.
Oui, Père Lisier de Bardis, allez-y.
Oui, Johan a eu un mot très important. Il a dit je me suis senti pardonné au bout de 8 jours. Et je reprends le titre du livre de Jean Vanier, la maison du pardon et de la fête.
La communauté, lui,
la du communauté du pardon et de la fête. Oui, ce pardon, eh bien, il est à la fois donné et reçu. Je dirais les personnes handicapées à l'Arche, eh bien, elles se sentent. Il faut comprendre ce que je dis. Elles se sentent pardonnées d'être handicapées, alors qu'elles sont souvent, culpabilisées. Elles ont une impression de décevoir leurs parents. Il y a un moment où elles s'en sont aperçues, et puis de décevoir, et puis de pas être à la hauteur de ce qu'on attend d'elles. Elles sont très humiliées, culpabilisées. Donc elles se sentent pardonnées, et de la même façon, eh bien, Elle pardonne les humiliations qu'elles ont pu recevoir, les rebuffades, les exclusions. Je trouve que ce mot de pardon qui sort tout seul de la bouche de Johan, pour moi, résume bien la spiritualité de l'Arche.
Alors, on continue un petit peu dans cette fin d'émission, un côté plus personnel et témoignage. Éric Pillet, est-ce que vous aussi, vous voulez dire un mot de la manière dont vous avez rencontré l'Arche, et puis vous êtes lancé dans cette aventure, et puis ce que ces personnes vous apportent, quel trésor vous avez découvert chez ces personnes?
Alors moi,
elles seront contentes de vous l'entendre dire, vous le directeur.
Je le dis. Je crois que justement, ça fait partie des... Je rebondis un peu là-dessus. Je crois du privilège aussi d'être dans cet environnement communautaire qui est d'essayer de nous inciter, et on fait ça beaucoup avec les jeunes volontaires qui viennent, de mettre des mots sur cette expérience. Parce qu'on peut vivre des choses et finalement elles vont rester superficielles si on n'arrive pas à nommer les choses. Et dans l'accompagnement que l'on fait des assistants et des volontaires, justement, il y a des temps où on essaye individuellement ou collectivement de partager ce que l'on vit, parce que ça permet, ce que va témoigner l'autre va résonner en moi et va me permettre aussi de dire, ah ben oui, c'est ça que je vis.
Et donc, on imagine en plus que c'est quand même pas une expérience anodine, donc c'est pas besoin de relecture.
Tout à fait, c'est pas une expérience anodine, et c'est même une expérience très engageante, mais je crois justement que les personnes avec un handicap, parce qu'elles sont engagées, ça fait partie de la transformation dont je parle, ou du risque que l'on peut prendre les uns vis-à-vis des autres, et c'est faire sa communauté, c'est aussi, il y a deux mots quand même fondamentaux qui sont bienveillance et confiance, et c'est évidemment si on n'est pas en relation de bienveillance et de confiance les uns avec les autres, et c'est pas toujours le cas, pas tout le temps dans les communautés de l'Arche, mais évidemment on va rester sur son compte à soi, on va rester avec son armure. L'expérience que nous essayons de vivre, c'est effectivement l'expérience d'un certain désarmement. Et moi, si je suis à l'Arche...
Et vous alors ?
Ouais, si je suis à l'Arche, je crois que j'ai découvert ceci petit à petit, et je dirais que je suis encore largement en chemin de ce désarmement. Mais j'ai découvert l'Arche, moi, quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, vous voyez, c'est en 78, donc j'ai une longue histoire avec l'Arche. J'ai trouvé un lieu, c'était à Trolly, c'était dans la première maison, d'ailleurs, Jean Vanier y habitait encore, l'Arche, et j'ai été très bouleversé. J'étais en recherche spirituelle, mais pas très, on va dire, pas très chrétien, et j'ai découvert là, effectivement, j'étais d'abord attiré par cette dimension spirituelle, où la rencontre d'une personne vivante, Jésus, qui était proche de moi, mais proche des autres, c'est-à-dire que j'ai découvert qu'il était proche de moi parce que j'ai découvert qu'il était proche des autres, et parfois proche de gens dont je me disais, mais comment est-ce que c'est possible pour des personnes avec un handicap, qui m'appelait à moi-même un peu me désarmer. Donc voilà, l'Arche a compté beaucoup pour moi dans ma dimension spirituelle, dans l'approfondissement de ma foi de chrétien. J'ai passé un an comme volontaire, comme Johan l'a fait, après mes études et mon service militaire. Et puis je suis resté compagnon de route de l'Arche pendant des années, pas forcément vivant en communauté. Et puis ce n'est que récemment, étant à Toulouse pour raisons professionnelles, qu'avec mon épouse et d'autres, et beaucoup d'autres amis, nous avons mis en œuvre ce projet et fondé l'Arche à Toulouse. Mais si je suis à l'Arche, c'est vraiment, je crois, pour... La communauté, c'est d'abord un lieu de croissance humaine. Et j'y suis parce que, je le dis assez souvent, parce que ça me fait du bien, je sens que je m'humanise, c'est un lieu très privilégié pour s'unifier, à la fois quand on parle de la dimension professionnelle, personnelle et spirituelle, c'est un lieu d'unification, et ça fait vraiment partie des... Voilà, j'en grâce pour... d'avoir rencontré l'Arche et d'y être.
Voilà, vous voyez, votre directeur, je ne sais pas s'il y a des personnes du foyer de Maloya qui vont écouter cette émission très sérieuse, mais en tout cas, si elles l'ont écouté, votre directeur, en tout cas, vous dit merci. Je voulais qu'on finisse cette émission alors rapidement en parlant du lavement des pieds, peut-être pour finir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Père Lisier de Bardis? C'est donc une tradition à l'Arche. On se lave les pieds, alors pas tous les jours, mais en tout cas, ça arrive.
Oui, c'est une tradition. Bon, c'est Jean Vanier, bien sûr, qui a beaucoup insisté sur ce sens profond du geste que fait Jésus lors du dernier repas. Et chaque année, dans les Arches, le jeudi saint, eh bien, on fait ce geste qui dit beaucoup mieux qu'avec des mots, qu'avec des idées, des concepts, qui dit le sens de cette relation, qui est réciproque d'ailleurs, parce que celui à qui on a lavé les pieds vous lave immédiatement les pieds aussi, en retour, et après avoir lavé les pieds, celui qui a eu les pieds lavés prie pour celui qui vient de lui laver les pieds, pose ses mains sur sa tête et prie à sa manière. Et ce que l'on fait tous les jeudis saints, eh bien on le fait aussi à d'autres occasions, parce que c'est d'une manière symbolique le sens profond de la relation humaine qui passe par le soin du corps qui est si important avec les personnes handicapées.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette merveilleuse réalité que sont les communautés de l'Arche, donc des familles prophétiques aujourd'hui encore dans l'Église, pour tout à chacun. Merci beaucoup. Je rappelle donc les prochaines dates du colloque qui a lieu à Paris, donc Fragilité Interdite, les 26 et 27 novembre 2016. Voilà, il faut y aller et l'adresse est www.fragilité-interdite.org. Fragilité et Interdite avec un S. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.